Bien. D'abord, bonjour tout le monde. Et je dois dire en préambule que c'est un plaisir d'être parmi vous ici, dans un des quartiers de Paris que j'ai beaucoup fréquenté, que j'ai hanté, pourrait-on presque dire, dans les parages de l'ancien Collège des Écossais, rue Cardinal Lemoine. Qui a commencé au XIIIe siècle, qui a beaucoup fait parler d'herbe autour du XVIe. Donc, dans les parages de l'ancien collège des Écossais, de l'Institut anglo-américain, de Paris 7, on s'appelait Paris 7 à cette époque-là, où pendant des années, de longues années, j'ai dirigé un séminaire de recherche Orient-Occident. Et dans les parages aussi, pour dire ma géographie intime, personnelle, locale, dans les parages des muséums d'histoire naturelle, où j'ai passé beaucoup de jours, beaucoup de journées. Et je remercie donc les organisateurs de m'avoir invité à ouvrir ce colloque sur, et je vais insister sur les termes spécifiques, altérité et pensée du dehors, la philosophie existentielle vue de l'Europe et d'ailleurs. Il y a beaucoup de choses. Le thème est vaste, évidemment. Ce qui n'est pas pour me déplaire, au contraire. Et il est vital. Vital. Car si, sur le plan socio-culturel immédiat, nous pouvons avoir souvent l'impression de vivre, et je vais utiliser certains de mes néologismes, de vivre dans une médiocratie, vous avez tout compris sans que je besoin d'épiloguer, dans une médiocratie entourée d'une cacotopie, on peut avoir souvent cette impression-là, moi j'ai souvent, sur un plan plus large, nous sommes certainement à un tournant de civilisation, marqué superficiellement par une hyper-technologie, qui, pour dire le moins, je parle de la situation, qui, pour dire le moins, n'est guère réjouissante. On peut aller vers une robotisation généralisée, par exemple. Et sur le plan existentiel, qui nous intéresse en premier lieu, ici, sur le plan existentiel, désastreux. Carrément désastreux. Il est même difficile d'en parler. Certes, on parle beaucoup. On n'a jamais parlé autant. On parle beaucoup, on écrit beaucoup. On n'a jamais écrit autant. On fait des films, etc. etc., etc. Le débattisme, là aussi, vous m'avez compris sans que j'ai besoin d'expliquer, le débattisme confus est une des caractéristiques de notre société. Et les débats, que je dirais, semi-intellectuels, abondent, où les topics sont trop souvent d'une banalité flagrante et affligeante. Étant donné tous ces contextes, que j'ai décrit rapidement, vous avez reconnu toute la situation, je pense. Et étant donné tous ces contextes, je me suis demandé comment j'allais procéder ce matin. Afin d'inclure, c'est mon propos, afin d'inclure un maximum d'éléments, tout en maintenant une cohérence vive. C'est déjà un propos difficile. Et je me suis dit que j'allais commencer par les grandes structures de l'humanité. Les grandes structures, d'abord cosmogoniques, ensuite politiques, pour aller étape par étape, de frontière en frontière, vers un champ d'énergie existentielle ouvert. Et là, je pèse mes mots et je reviens là-dessus. Je vais vers un champ d'énergie existentielle ouvert. Ce que je vais essayer de faire sous le titre, je reviens sur ces titres pour les avoir toujours à l'esprit. Limite, frontière, bord, le mouvement exotique. Exodique, dic, avec un D. Ce que l'auditeur, surtout occidental, entendra dans ce terme néologique, j'ai inventé ce mot comme beaucoup d'autres qu'on a besoin, ce terme néologique exodique, pas exotique, exodique. Donc ce que le lecteur surtout occidental reconnaîtra, c'est une référence au deuxième livre de la Bible, l'Exode, qui fait suite au récit de la création du monde. dans Genèse. En fait, mon usage remonte simplement, remonte simplement, pour ainsi dire, au terme grec exodos, exodos, qui fut le mot employé dans la traduction grecque de la Bible. Exodos, qui signifie le chemin vers le dehors. Mais, avant de développer le terme dans un sens plus large, ce qui m'intéresse le plus, il ne semble pas inutile de s'attarder un moment auprès de la cosmogonie biblique, qui parmi toutes les cosmogonies du monde est sans doute celle qui a exercé le plus d'influence sur l'histoire. L'histoire mondiale. C'est aussi une cosmogonie que je connais bien et qui a constitué en fait mon initiation, je parle de la Bible, mon initiation plutôt puissante à la littérature. Je pense à une citation que j'ai dans la tête depuis que j'ai 10 ans. Je me suis trouvé exilé sur l'île de Patmos à cause du Logos. J'ai vécu avec ça depuis l'âge de 10 ans. Je me suis trouvé exilé sur l'île de Patmos à cause du Logos. Né dans un pays protestant, l'Écosse, vous l'avez dit, avant ma puberté, j'étais le possesseur comblé de 12 Bibles. Cadeau de Noël. À propos, pour beaucoup, le mot protestant a le sens de celui qui proteste. Contre l'Église catholique romaine, par exemple. Mais ça va de soi, en fait, le sens. Moi, j'ai protesté aussi contre le protestantisme, c'est bien. Donc, protestant signifie aussi ça, celui qui proteste. Mais le sens radical du mot, et on l'oublie souvent, quand on ne l'ignore pas, le sens radical du mot est protestamento. Protestamento, à savoir l'attachement à un texte. En l'occurrence, celui du Vieux Testament. Alors, le Vieux Testament, c'est quoi? En deux mots. Je l'ai lu, relu et relu. L'Exode, je le rappelle, raconte la sortie d'un groupe humain nomade, c'est-à-dire pas encore un peuple, dans un état d'enfermement, voire d'esclavage, je vais discuter des termes, son long voyage, je pèse encore les termes, son long voyage au cours duquel ils fondent la religion monothéiste, établissent un système moral législatif et posent les bases d'une constitution politique. Tout y est, il y a tout un schéma, il y a tout un paradigme, comme on dit. Si les grandes cosmogonies commencent dans une poéticité, ça c'est sûr, à travers le monde, il y a une poéticité certaine. Et c'est ce qui m'a attiré d'abord dans la Bible, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc si les grandes cosmogonies commencent dans une poéticité, elles finissent dans une politicité. Politicité. La chose est horrible, et c'est pour ça que j'ai du mal à prononcer le mot. Donc il commence dans une poéticité et il termine dans une politicité. C'est à ce moment-là, quand tout commence à se politiser, que l'existant s'y sent au piège, très profondément, quelquefois très superficiellement, mais tout le monde se sent plus ou moins au piège, pris dans un piège. L'existant en général, je parlais tout à l'heure, du nomade intellectuel, qui essaie d'en sortir. Avant de reprendre le voyage en nomade intellectuel, l'existant va entreprendre une critique, une analyse. Par rapport à l'exemple que je viens de citer, qui n'est pas le seul que j'ai repris, mais pour des raisons que j'ai indiquées, j'ai décidé de commencer par celui-là, le cosmogonie biblique, il va y avoir, 18e, 19e siècle, avant bien sûr, mais le grand mouvement c'était à ce moment-là, ce fut le cas par exemple de Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Nietzsche a entrepris une critique radicale et une analyse radicale de tout le système que je viens d'évoquer. Pour Heidegger, Nietzsche y a passé en fait trop de temps et d'énergie, peut-être, mais je crois que c'était un travail à faire. Heidegger lui-même laisse la foi à Freud. Il dit, ça ne m'intéresse pas, Freud va s'en occuper. Et les trois greffiers, bien sûr, dans un livre que certains d'entre vous connaissent certainement, Moïse et le monothéisme. Heidegger lui-même, donc, dit, Heidegger, tu as passé tout le temps là-dessus, lui-même laisse la foi à Freud, comme j'ai dit, et se dirige, essaye de se diriger, parce que c'est difficile, essaye de se diriger vers les lieux, le lieu, le, où se situe à ses yeux le vrai problème, qui est la question de l'être. L'être est situé d'abord dans un contexte grec. Sur un plan encore plus intense, je parlais de la critique et de l'analyse, je parlais de Nietzsche, je parlais de Heidegger, je pourrais parler d'autres, mais ce sont des figures essentielles à mon avis. Mais sur un plan encore plus intense, incandescente même, Arthur Rimbaud, après une saison en enfer, parcouru d'illumination, s'abîme en Abyssinie. Il s'abîme en Abyssinie afin de brûler dans sa chair et dans son esprit tout ce contexte. Ça, c'est un peu tel que je le vois. Il s'abîme en Abyssinie afin de brûler dans sa chair et dans son esprit tout ce contexte. Il veut essayer de commencer à zéro. C'est extrêmement difficile, évidemment. Ensuite, d'essayer à partir de là. Alors, je disais tout à l'heure que les cosmogonies finissent toujours dans une politisation. Et je tiens à donner des exemples précis ce matin aussi, tout en abordant, disons, des grandes questions. Souciez toujours donc d'exemples concrets, et parce que j'avais compris à un moment donné qu'il y avait des Américains et des Américanistes dans la salle, je vais me concentrer ici sur le cas des États-Unis, que tout le monde connaît de toute façon, du moins superficiellement. Sur les États-Unis d'Amérique. Et cela pour plusieurs raisons. Pourquoi me concentrer surtout sur les États-Unis à ce stade de la conférence? Parce qu'on va aller ailleurs après. Pourquoi me concentrer donc sur le cas des États-Unis? Pour plusieurs raisons. D'abord, c'est le pays le plus massivement marqué par la Bible. Il n'y a pas un pays plus marqué par la Bible que les États-Unis d'Amérique. Et les portes. Les titres des grands romans viennent de la Bible, américains viennent de la Bible, etc., etc. Donc le plus massivement marqué par la Bible. Ensuite, s'il y a un pays qui s'est présenté et qui a été vu ainsi par tant d'exodes européens et non-européens, comme une terre promise, ce sont les États-Unis. Beaucoup, 19e siècle, c'était la terre promise. Pour beaucoup encore, c'est le cas. C'est aussi l'État qui s'est voulu le plus puissant du monde, qui a voulu être dominateur et sauveur. Les dominateurs sont souvent, ou se veulent aussi, des sauveurs. Et qui a réussi à l'être, du moins jusqu'à récemment. Qui a réussi à l'être. Et puis, aucun pays n'a plus employé exploiter le terme de frontière, le terme de mon titre et de mon thème. Selon la fameuse thèse, et je suis sûr que beaucoup dans la salle le connaissent, on va pas lui dire sinon pas lire les livres, selon la fameuse thèse de Frederick Jackson Turner, présentée d'abord, ce n'était pas un hasard, en 1893, à la Columbian World Fair de Chicago. Là, il a présenté sa thèse. À la Columbian World Fair. Pas pour rien. Au moment de l'exposition universelle, sous le titre, donc il a présenté sa thèse, son idée, sous le titre The Significance of the Frontier in American History. The Significance of the Frontier in American History. Pas seulement que vous allez voir une simple question de Corbett. Selon Frederick Jackson Turner, c'est la notion de frontier, qui définit l'évolution du pays, fonde la démocratie américaine, constitue l'identité de Homo Americanus. Ça, c'est sa thèse, et elle a, à mon avis, beaucoup de vérité. Il s'agit d'abord d'un mouvement à travers l'espace, partir de la Virginie, de la Pennsylvanie, les Appalaches, la région des grands lacs, des grandes plaines, des rocheuses. Pour moi, l'Amérique, c'est d'abord une géographie, c'est d'abord un espace. Avant de devenir autre chose, de devenir moins intéressant. La région des grands lacs, les grandes plaines et les rocheuses. Onward the march of progress. Onward the march of progress. Go west, young man, and grow up with the country. Vous connaissez ces phrases. Avant, il y avait les buffles et les indiens. Puis, le chasseur de fourrure, le frontiersman. Ensuite, le cowboy, avec à l'horizon les abattoirs de Chicago. On ne montre pas ça dans les films, les cowboys. Les abattoirs de Chicago attendent. Donc, du fric. Donc, d'abord le buffle des Indiens, puis les chasseurs de fourrure, le frontiersman, ensuite le cowboy, le colon, détesté par le cowboy, le pionnier, suivi bientôt, très bientôt, par les banquiers et les spéculateurs. Et pris en main surtout après la guerre civile par les banquiers et les spéculateurs. Et ça continue, bien sûr. Pendant tout le temps que je viens de décrire rapidement, se construisit strate après strate, sédiment après sédiment, une idéologie. Une idéologie. Terre disponible à l'infini, terre disponible, ressources illimitées, liberté d'exploitation. Cela dure avec confiance et conviction, avec la foi derrière, jusqu'au crash de 1929, la fameuse grande crise américaine. Mais on surmonte cette crise et on reprend. Le capitalisme a toujours plus d'un tour dans son sac. En ces temps, la population augmente vertigineusement. La Bible avait dit qu'on s'est multiplié, et l'Amérique y va. En ces temps, la population augmente. C'est le problème écologique numéro un, dont on ne parle guère. En ces temps, la population augmente. L'encadrement légal et politique s'installe. Et combien et comment? Et c'est la clôture de la frontière. De la belle frontière, de la grande frontière. C'est la clôture de la frontière, la fin de l'esprit de la frontière, jusqu'à ce qu'un homme politique, se rende compte que l'Amérique est en train de perdre son énergie première, en quelque sorte, celle de la frontière. Cet homme politique étant John F. Kennedy, bien sûr, parle d'une nouvelle frontière. C'est toujours la frontière. Une nouvelle frontière, après la conquête de l'Ouest, la conquête de l'espace. Le stade actuel, qui va continuer longtemps. À tel point qu'il y a des scientifiques qui sont en train de dire maintenant la Terre c'est une poubelle, c'est fini, l'humanité va aller s'installer sur la nouvelle frontière. La Lune, l'espace devient banal, Mars, etc. etc. Donc après la conquête de l'Ouest, la conquête de l'espace, mais toujours la conquête. La conception de Turner a duré longtemps. Si l'on y ajoute le taylorisme et le fordisme, qui s'est répandu à travers le monde, suivi du start-upisme, ça c'est plus récent, le start-upisme, ça c'est encore un petit néologisme, on peut dire que ce schéma que je viens de décrire, en prenant l'exemple des États-Unis, ce schéma est devenu, je pense pouvoir le dire sans exagération, le modèle de la civilisation moderne mondiale. C'est pour ça que j'ai pris cet exemple, parce que c'est celui qui s'est répandu. Le modèle de la civilisation moderne mondiale. Avant d'aller plus loin, je voulais rester un temps dans le contexte nord-américain afin d'évoquer, même en Amérique, une autre conception de l'histoire du pays. Une conception plus cachée, plus occulté presque. Donc je vais encore, de cette autre histoire du pays, dont je vais essayer encore de tirer une lecture, une leçon. Je pense à l'étude de Richard White, The Middle Ground, the middle ground, Indians, empires and republics, in the Great Lakes region. 1650-1815. Si ici apparaissait, j'avais ce séminaire de recherche Orient-Occident, j'étais là en tant qu'américaniste. Ce que Richard White appelle conceptuellement le middle ground, littéralement le terrain du milieu, est d'abord une région géographique au nord-est de Montréal que les missionnaires jésuites, intellectuels, mais aussi très idéologisés, animés d'un paternalisme chrétien, parfois aussi un peu poète, appelaient le pays d'en haut. Le pays d'en haut. Comment ne pas être attiré par le pays d'en haut. S'y retrouver dans un lieu, et là aussi je pèse certains mots, dans un lieu très particulier, non marqué sur les cartes coloniales, il faut se rendre compte que la plupart des cartes, c'est à l'époque, étaient des cartes coloniales, en dehors des rapports des missionnaires et des militaires, c'était la seule connaissance qu'on avait du pays, en dehors des grandes villes, on s'y retrouvait donc des Indiens, surtout dans la région des Grands Lacs, des Algonquins et des Iroquois, ça peut être très intéressant, mais aussi des réfugiés d'autres nations autochtones, parce que tout le mouvement américain était complètement chamboulé, et il y avait des errants autochtones qui se retrouvaient dans ce pays en haut, à côté d'eux, coureurs des bois canadiens, c'est très intéressant, les coureurs des bois canadiens, d'Européens égarés, des Européens qui arrivaient aux États-Unis, croyaient tout la terre promise, disaient non, c'est pas tout à fait ça, et qui allaient par exemple s'accoquiner avec des Indiens, c'était le cas de nombreux Écossais, qui s'indianisaient. Il y en avait un qui brûlait sa Bible même et qui est devenu Indien, considéré par les Indiens comme un des leurs. Donc des réfugiés de tous bords. Et dans ce pays d'en haut, c'est là qu'on pouvait voir l'émergence, et c'est une autre image de l'Amérique sur laquelle je vais insister un moment, l'émergence d'un groupement hétéroclite. Alors si je pèse mes mots, je n'ai pas le temps bien sûr de développer chaque mot, mais je suis sûr que beaucoup de personnes ont remarqué ces mots et se sont fait des idées. Un groupement hétéroclite réuni par... Qu'est-ce qui fait qu'un groupement hétéroclite peut atteindre une certaine cohérence? Réuni donc par le partage d'un espace vécu. Le partage d'un espace vécu. C'est la première chose, à mon avis. Le partage d'un espace vécu. Ensuite, des intérêts matériels. C'est ça aussi qui crée une unité. Des intérêts matériels partagés, deuxième élément. Et une lingua franca. Un patois, si vous voulez. Un pidgin English, pidgin French. Mais pas une langue. Une lingua franca. C'est-à-dire un mélange de toutes sortes de langues. Anglais, par exemple. Mais pas une langue, avec une histoire, avec une épaisseur, avec toutes sortes de connotations. Bien, ça, c'est une image de l'Amérique infiniment préférable, c'est moi qui parle, mais j'espère que beaucoup sont d'accord, une image de moins préférable à la première conception des choses. Mais, pour extrapoler, comme je fais tout le temps, comme avec le premier exemple, vers le monde dans son ensemble, nous sommes là, dans ma lecture des choses, dans le cadre qui s'est installé peut-être d'abord en Occident, mais un peu partout aujourd'hui, qui s'est installé dans le cadre des études post-coloniales. Ça, il y a une vingtaine d'années maintenant, ça c'est devenu départements universitaires qu'on trouve dans toutes les universités. Le cadre des études postcoloniales, et bon, je continue ma lecture de cet état de choses que je viens de décrire, du créolisme culturel, de l'œcuménisme. Il y a beaucoup de rencontres œcuméniques qui sont sympathiques, mais qui ne mènent jamais à rien, sauf à une autre réunion. Et du syncrétisme, c'est-à-dire pas aucune pensée vraiment radicale profonde, mais du syncrétisme, un mélange adultère de tout, comme disait Baudelaire un jour. Alors, tout cela, ce que je viens d'évoquer rapidement, ça ne peut qu'éveiller la sympathie, y compris la mienne. Toute ouverture de l'esprit est la bienvenue. Même si on sent, et c'est mon cas profondément, ça ne mène pas à grand-chose. Car à mon sens, dans ce contexte-là, on reste à mi-chemin, dans le middle ground, justement. Alors que ce qui m'intéresse, et ce que je suis en train de vous proposer ce matin, c'est à la fois un underground, un souterrain, moi j'ai beaucoup vécu souterrainement, un underground, un souterrain, un other ground, un terrain autre, et plus loin encore, au-delà encore, un outer ground, c'est mon vocabulaire, un underground, un other ground, et un outer ground. Et c'est l'outer ground, disons, traduisons rapidement, la zone extérieure, le dehors, enfin, un dehors. Parce que ce mot-là peut être utilisé de toutes sortes de manières. Dans l'outer ground, que je vais explorer avec vous maintenant, après avoir préparé le terme, quelque sorte, dans l'outer ground, il ne s'agit pas de la recherche de l'autre. La recherche de l'autre, c'est sympathique. Ça peut même être. On apprend des choses. Mais il s'agit de plus que la recherche de l'autre, qui a été un grand thème il y a quelques années, la recherche de l'autre. Il s'agit aussi de beaucoup plus que d'un rassemblement, un rassemblement. Tout le monde dit tout, rassemblement, tout semblable. Il s'agit à la limite, et c'est là où j'entre dans le territoire profond, il s'agit à la limite de l'expérience d'individus, parce que tout commence par des individus, enfin, tout ce qui est intéressant commence par des individus, qui sont allés, alors des individus, qui sont allés jusqu'au bout de leur culture d'origine et d'eux-mêmes. Ce que je dis là est énorme. Mais certains individus ont essayé de le faire. Aller jusqu'au bout de leur culture d'origine, quel que soit l'intérêt pour leur culture d'origine, ils sentent qu'il y a autre chose. Et d'eux-mêmes, ça c'est encore plus difficile, aller au-delà de soi. Quand un mot, par exemple, je prends beaucoup d'experts, exemple que j'ai cité dans un autre contexte, quand Rimbaud dit « je est un autre », ce n'est pas une déclaration d'identification panethnique. « Je est un autre ». Ce n'est pas une déclaration d'identification panethnique. Ce qui est envisagé seulement chez Rimbaud, est un être désencombré, un être désencombrant. Et on peut trouver d'autres exemples à travers le monde. Dans toutes les cultures et dans toutes les civilisations, il y a toujours eu des esprits qui ont cherché ce que moi j'appelle des outer ground. Par exemple, il faut indiquer que, à mon avis, on peut le trouver dans toutes les cultures et dans toutes les civilisations. C'est en plein christianisme, le christianisme moyen-âgeux, c'est en plein christianisme que Maître Eckhart, dit, il faut aller au-delà de Dieu, dans le désert. Ça, c'est énorme. Il faut aller au-delà de Dieu, dans le désert. Ça, c'est en plein christianisme. Lui, il est dans l'intégral. Et aucun bouddhiste qui est allé jusqu'au bout du bouddhisme, selon la logique de Nagarjuna, par exemple, une des régions de la pensée bouddhiste qui m'intéresse le plus, c'est la logique d'Agarjuna. Donc aucun bouddhiste qui est allé jusqu'au bout du bouddhisme, selon la logique de Nagarjuna, par exemple, maître du grand véhicule, le Mahayana, aucun bouddhiste qui est allé jusqu'au bout du bouddhisme ne dira « je suis bouddhiste ». Il ne dira jamais « je suis bouddhiste ». Ça n'a aucun sens. D'abord, dans le bouddhisme, il n'y a pas de « je ». C'est « soi-disant moi », disent les moines, les masseurs avec lesquels j'ai parlé. C'est « soi-disant moi ». Il n'y a pas de « je ». Il n'y a pas d'être. Il n'y a pas d'être. C'est un terme grec. Il n'y a pas d'être. Tout est flux. Tout est flux. Et il n'y a pas d'ici. Mais il y a une voix. Il y a une voix. Avant d'aller plus loin encore dans le champ existentiel, qui, j'espère, commence à se dessiner là, nous allons aller de plus en plus en flèche. Avant d'aller plus loin, donc, je propose un peu d'anthropologie fondamentale. On fait beaucoup d'anthropologie, mais d'anthropologie fondamentale, l'être en moi. L'homme, l'être humain, cet animal embrassé, la première définition de l'homme que je vois, un animal embrassé, parlant, il parle, il pense, cet animal embrassé, parlant et pensant, a toujours voulu sortir de lui-même. Mais quand ils ne sont pas les moyens, quand même. D'où les drogues. On prend des drogues pour sortir de soi. D'où les techniques de l'extase, qu'on trouve dans toutes les civilisations. Les techniques de l'extase. Et à un autre niveau, plus supérieur, si on veut, le mythe, la religion, c'est moi qui parle, prolongée par la théologie, religion prolongée par la théologie, positive ou négative, il y a plusieurs strates, plusieurs stades. Et la métaphysique. La métaphysique, pour moi aussi, c'est une tentative de sortir. Au vu de l'histoire, avec H majuscule, un esprit lucide, sceptique ou cynique, j'ai passé beaucoup de temps chez ces gens-là, un esprit lucide, donc, sceptique ou cynique, conclura en regardant l'histoire du monde, conclura un millimélo infâme, un millimélo infâme, et en fin de compte, n'envisagera que deux solutions logiques, et je les comprends parfaitement, 100%, le silence ou l'exil, et souvent les deux, le silence et l'exil. Et un exil à la fois extérieur et intérieur. Ce sont des positions que je comprends et que je peux partager en partie. Y a-t-il autre chose? Je pense, malgré tout, ça m'a devise, malgré tout que oui. Si l'être humain normalisé accepte ce qu'Étienne de la Boétie, ami de Montaigne, un des grands écrivains français. Si l'être humain normalisé accepte ce qu'Étienne de la Boétie appelait la servitude volontaire, qui comprend, je mets ça entre parenthèses, mais qui comprend des fêtes, on fait une petite sortie, des révoltes, on fait une petite sortie, et des révolutions, on fait une petite sortie aussi. Pour moi, ça fait partie, tout cela fait partie de la servitude volontaire. Ce ne sont pas des vraies sorties encore. Donc, on le comprend, on peut sympathiser avec, mais la fête, la révolte et même la révolution se situent, à mon avis, dans ces contextes-là. Si le sceptique et le cynique, surtout des gens qui se disent sceptiques ou cyniques, mais qui ne sont jamais allés dans le fin fond du scepticisme, ils n'ont jamais lu Sextus Empiricus, par exemple, mais ils se disent sceptiques ou cyniques, là aussi, une école philosophique très intéressante, un grec. Alors, ceux qui se disent cyniques, c'est rarement cela. Mais disons, si le sceptique et le cynique s'installent, à se voir, on rencontre des gens comme ça, dans une sorte de silence narquois, avec un petit sourire cynique au bout des lèvres, la figure que j'appelle le nomade intellectuel, qui est pour moi l'existant moderne, postmoderne, si vous voulez. Si on comprend bien le mot. Donc, le monde intellectuel, qui pour moi est l'existant moderne par excellence, se meut. Lui se meut. Non seulement en dehors de la servitude volontaire, stigmatisée par Étienne de Lemoussy, mais l'intellectuel d'un moine se meut en dehors des servitudes, de toutes sortes, si possible, en dehors des certitudes, et pense en dehors des cadres de la pensée établie. Je n'insiste pas sur la difficulté de l'entreprise, évidemment. Alors, j'ai parlé de cela maintes et maintes fois, mais c'est toujours la première fois. Et c'est de cela que je vais parler maintenant. En ayant recours maintenant, pour illustrer encore mon propos, à quatre termes, deux néologismes et deux termes bien connus, mais ici revus et élargis, qui désignent quatre actes. Je vais parler de quatre actes. Dromologie, eschatologie, épistémologie et poémologie. Dromologie, je l'expliquerai un peu tout à l'heure, eschatologie, épistémologie et poémologie. Comme je disais, deux termes bien connus, mais je vais les interpréter autrement, et deux néologismes, dromologie et poémologie. Dromologie d'abord. À la fin du 19e siècle, encore des exemples concrets. Dans le sud-ouest de la France, un médecin travaillant à l'hôpital de Bordeaux a remarqué un phénomène étrange, très étrange. Des individus de tous âges abandonnaient tout, famille, environnement social, profession, ils laissaient tomber. Famille, environnement social, pour se mettre à marcher sur les routes et à travers champs. Et ils continuaient à marcher, dans un état quasiment second, jusqu'à arriver au milieu de nulle part, ne sachant pas où ils étaient, qui ils étaient. Je trouve ça très intéressant. Ayant diagnostiqué une nouvelle maladie, il est médecin, donc il faut qu'il invente une maladie, et ensuite il a trouvé thérapeutique, et voilà, ça continue. Ayant diagnostiqué une nouvelle maladie, le médecin l'a nommée dromomanie, folie du mouvement, du grec dromos, comme dans hippodrome ou aérodrome. Drôme. En parlant de dromologie, plutôt que de dromomanie, je sors le terme de l'histoire médicale et le projette dans un autre champ, en revenant au mot racine, dromos, le mot grec, dromos, qui a donné lieu, je vais faire un petit voyage linguistique maintenant, qui a donné lieu au mot dromon, pour désigner un navire aux lignes très fines, ça c'est l'esprit, le mouvement. Donc, dromos, pour indiquer un navire aux lignes très fines de la flotte byzantine du 6e au 15e siècle, je m'intéresse beaucoup à l'histoire de la navigation, et j'ajoute à mon paquet linguistique le vieux terme français, la drome, qui indique tout ce qu'il faut à bord d'un bateau pour accomplir un long voyage. Et tout ce dont il faut se débarrasser pour voyager finement et longuement. C'est ce long voyage qui nous intéresse. Et c'est de ça que j'ai essayé de parler, mais vous m'avez déjà compris. Un long voyage qui passe par toutes sortes de frontières, toutes sortes de limites, toutes sortes de bords. Pour le terme borderline, le titre est amélioré sur lui. Pour le terme borderline, l'Oxford English Dictionary donne un pays, une région qui s'étend de chaque côté d'un border et propose l'exemple des borders entre l'Écosse et l'Angleterre. Puis par extension, c'est plus intéressant. Par extension, je cite la définition, une condition intermédiaire, comme entre le sommeil et l'éveil. Pensez à mes romans tout à l'heure. Autre définition, un terrain incertain. Le dictionnaire anglo-américain Funken-Wagnalls donne la limite extérieure, on est proche de mon zone extérieure, donne la limite extérieure d'un district, d'un pays, d'un État. Ensuite, par extension et expansion, c'est toujours les extensions et les expansions qui m'intéressent, un terrain indéterminé. Donnons, par exemple, le borderline de l'histoire. Et nous y sommes, à mon avis, dans le borderline de l'histoire. C'est pour ça que j'ai un livre au large de l'histoire. Nous y sommes, dans un terrain incertain, mais avec des choses très intéressantes qui ont lieu ici et là. Alors, de dromologie, je passe à eschatologie. Enfin, c'est un terme connu, eschatologie. Dans l'usage ordinaire du terme eschatologie, tel qu'on peut le trouver dans les hautes sphères de la théologie, et jusque dans l'existentialisme, quand moi je parle d'existant ici et dans mes livres, ça n'a rien à voir avec l'existentialisme. Donc, on peut trouver l'eschatologie jusque dans l'existentialisme chrétien, ou de certains chrétiens, existentiel humaniste. Hein. Vous voyez tout de suite des exemples. Existentialisme chrétien, Kierkegaard, existentiel humaniste, Sartre. Il est question, donc, dans cette eschatologie-là, surtout côté théologique, de la fin du monde, de la fin d'une société, de la fin du monde et d'état futur de mort et de résurrection. Comme par exemple Chesterton, aux confins de la vie. Un très beau livre de Chesterton. J'ai dans mon mur dans un. Alors, le second eschatologie que je viens de définir selon la tradition, je fais un tout autre usage, en remontant encore une fois au sens originel grec. Dans les premiers textes classiques, l'adjectif eschatos a le sens de au dehors. Eschatos, au dehors. Extérieur, tout au bout, au fin fond, reculé, excentré. Vous voyez le terrain dans lequel on se trouve là, radicalement. Pour une cité grecque, l'Escatia était la zone située au-delà des champs cultivés, au-delà de l'agriculture. Avec le temps, il prit de l'expansion pour désigner un territoire terrible. Dans sa théogonie, Hésiode parle d'un chaos, d'un vide, des puissances à la voix stridente qui habitent à la frontière de la nuit, à l'extrémité du côté de l'Occident. Ça, c'est formidable, c'est plaisir. Un chaos, un vide, des puissances à la voix stridente qui habitent à la frontière de la nuit, à l'extrémité du côté de l'Occident. J'y ai habité longtemps, sur la côte ouest de l'Écosse. Si Pindare, en poète grec, peut faire l'éloge de Théon, d'agrégente, dont l'élan courageux le porta jusqu'au stèle d'Hercule, c'est-à-dire une sortie ouest de la Méditerranée. Si Pindare donc peut faire l'éloge de Théon, qui alla jusqu'au stèle d'Hercule, les colonnes d'Hercule, comme on dit aujourd'hui, à la porte de l'immense Atlantique, il tient aussi, le grand poète grec, il tient aussi à mettre un terme à de telles ailes, à marquer des limites. Il dira, ce grand poète grec, aux Grecs, au-delà des colonnes, la voie est inaccessible. Je parlais de voie tout à l'heure. Et là, c'est une certaine civilisation grecque, une certaine culture grecque, la voie classique, si vous voulez, la voie est inaccessible à la fois aux vulgaires et aux esprits supérieurs. L'idéal pour la civilisation grecque, c'est un monde fini, bien mesuré, gouverné par Zeus. Ça, c'est l'idéal. La culture grecque classique, qui restera le modèle humaniste, qui a duré très longtemps, comme vous le savez, a le sens d'un apéron, d'une ouverture, mais recule devant elle. Il y a le sens, là, surtout chez certains philosophes, mais la civilisation et la culture reculent devant ça. Trop dangereux, trop dangereux. Il a fallu des poètes-penseurs périphériques, et j'utilise le terme poète-penseur plutôt que philosophe, vous l'avez peut-être remarqué, il a fallu des poètes-penseurs périphériques, extrêmes, tels que Xénophane, Anaximandre, Hérodote, explorant des contrées au-delà de la city, la skiti, conscient des extrémités de la terre, es escata gaies, gas escoton topon, et plus extrême encore, Héraclite, que je cite, le logos est si profond que tu n'en atteindras jamais les limites. Le logos est si profond que tu n'en atteindras jamais les limites. Il a fallu donc ces poètes-penseurs périphériques, extrêmes, extrémistes. Mais si on ne pense pas extrême, on aura affaire de plus en plus à des extrémités, à des extrémismes. Extrémisme de plus en plus superficiel et meurtrier. Mais une pensée extrême, ça c'est absolument nécessaire. Héraclite donc, le logos est si profond que tu n'en atteindras jamais les limites. Il a fallu donc des esprits comme cela pour ouvrir un monde plus large. Ce qui nous amène à la question de l'épistémologie. Point besoin, mais c'est pas inutile, de retourner à des sceptiques tels que Sextus Empiricus dans son livre admirable Contra Mathematicos, contre les mathématiciens, pour se rendre compte du fait que notre savoir n'est jamais au mieux qu'un demi-savoir. Point besoin d'avoir lu Feyerabend contre les méthodes, esquisse d'une théorie anarchiste du savoir, pour être conscient du fait que tant de méthodologie, et souvent en guise d'enseignement, on n'enseigne qu'une méthodologie, conscient du fait que tant de méthodologie, quand elle n'est pas simplement tautologie répétitive, et ça c'est souvent, j'allais dire, presque toujours le cas, méthodologie, quand elle n'est pas simplement tautologie répétitive, mène droit à des aberrations totales. On peut devenir tellement méthodologie qu'on devient fou. Les aberrations, non. Ce qui vaut vraiment la peine, mais encore une fois, c'est extrêmement difficile, et non seulement de tenter une autre approche de la connaissance, l'épistémologie, c'est l'approche de la connaissance, non seulement de tenter une autre approche de la connaissance, déjà difficile, mais d'élaborer un autre type de connaissances. Ça, c'est encore plus difficile. Le modèle épistémologique qui prédomine depuis longtemps dans le monde est le modèle mathématique. On commence avec Platon. Si vous ne connaissez pas la géométrie, vous n'entrez pas ici. Ça, c'est Platon. L'académie de Platon. Donc, le modèle épistémologique qui prédomine depuis longtemps est le modèle mathématique. Et c'est de plus en plus le cas aujourd'hui. Pas besoin d'insister. Alors, des siècles après Sextus Empiricus, Hegel, dans la phénoménologie de l'esprit, dans ces titres qui sont des lumières dans l'obscurité obscure de l'histoire, Hegel, donc, dans la phénoménologie de l'esprit, rejette cette culture mathématicienne, personnellement j'ai beaucoup de mathématiques, mais une certaine logique mathématicienne, passif. Hegel l'appelle une culture d'arrière-garde. D'arrière-garde. On fait des spécialisations là-dedans très fines, que je peux admirer, parce que j'aime bien toutes les actions fines. Mais ce n'est pas ça qui nous fait. Rousseau, Rousseau donc trouve une analyse critique non seulement de la mathématisation de la nature, qui selon lui cache la vraie nature, assez radical, mais Husserl fait aussi une critique de la logique formelle en général. Ce à quoi aboutit Husserl, c'est ce qu'il appelle une phénoménologie transcendantale, qui reste sur l'horizon comme un nuage, comme dit-il dans le dernier de ses livres, presque pathétique, une terre promise. Revenons sur cette terre complexe et incertaine qui est la nôtre. Avec la question, comment avancer dans l'espace ouvert? J'ai essayé d'ouvrir devant, avec vous devant. Comment avancer? Voilà la grande question. Voilà. Comment avancer dans l'espace ouvert avec une stratégie dans le cadre de l'épistémologie? Avec une stratégie cognitive lucide. Une stratégie cognitive lucide. À propos de stratégie, il m'est arrivé dans un de mes livres de parler de stratégie paradoxale. C'est la seule stratégie qui va être. Hérodote, à propos des forces armées perses, dit ceci. Plutôt dans l'épistémologie, mais radicalement, sans radicalement. Donc voici Hérodote, parlant de l'armée perse. Elles sont braves. Elles sont braves. Elles avancent comme un seul homme. Elles marchent formidablement. Mais elles manquent de connaissances tactiques fines. Elles manquent de connaissances tactiques fines. Elles sont anépistémeos. Connaissances tactiques fines. Passons sur toutes les nouvelles alliances, parce que je sais, depuis Husserl, il y a des nouvelles alliances de toutes sortes. Passons sur toutes les nouvelles alliances, toutes les nouvelles gnoses, de Princeton par exemple, les élus, acquis de conscience en quelque sorte, mais vite. Sur tous les mélanges divers de religion, de spiritualité, de métaphysique mal digérée, horriblement mal digérée la plupart du temps. Toute la littérature des sciences humaines, je suis très radical, psychologie, sociologie, ethnologie. Parce qu'elles ne vont pas jamais assez loin, assez profond. Je reviens à mon premier compagnon en études philosophiques, David Hume. Il est aussi d'origine, mais peu importe. Ami des idéologues, comme on les appelait, français du XVIIIe siècle. Donc je reviens à David Hume, pour mon point de départ, et à son traité en philosophie. À son traité de la nature humaine, non seulement Hume ne voit dans l'être humain aucune identité stable, là il est proche du bouddhisme, aucune identité stable, faite à l'image de Dieu par exemple, mais il déteste toute notion de cosmogonie complète et de monde parfait. De monde parfait, il n'y a pas de monde parfait. Tel qu'on pouvait, par exemple, à l'époque de Hume, avec derrière elle, effectivement, une certaine cosmogonie, une certaine idéologie. Il y avait des livres tels que, en anglais, Burnet, Sacred Theory of the Earth, n'est-ce pas, où tout est parfait. Sacred Theory of the Earth, ou bien en allemand, il y a Zusmi, du Göttliche Ordnung, l'ordre divin. Hume, complètement en dehors de tout cela. Pour lui, pour Hume, comme je disais, mon premier compagnon de philosophie, le processus de modification, là, l'élaboration permanente, doit être un tâtonnement subtil. La nature contenant une quantité innombrable de mouvements et de surgissements. Là, je cite le traité de la nature. C'est ce monde-là, le monde d'avant les établissements que nous avons oublié. À la fin de la République, Platon évoque un pays de l'oubli, un pays de l'oubli, où ne croit aucun arbre. Platon. Et à la fin du banquet, pour remédier à cet état de choses, afin de préparer un terrain ou un tel oubli avec ses conséquences néfastes sur tous les plans, ça est impossible, il parle de la nécessaire exode perpétuel de l'intelligence. l'exode perpétuel d'humanité. Et ça, c'est le travail de la pensée. Et puis, il y a le travail de l'expérience. Hérodote voyage. Il traverse les espaces historiques et géographiques. Je parlais tout à l'heure de la nécessité de la voie, du voyage. Et de ce mouvement émerge une connaissance du monde, Hérodote, une connaissance du monde à la fois pleine des pistes, des esquisses, qui ne prétend à aucune complétude absolue, et ouverte. À la fois pleine, piste, esquisse et ouverte. Je rappelle aussi que, selon la légende, et c'est peut-être plus que de la légende, Hérodote dédia les 9 livres de ses investigations aux 9 muses. Intéressant. C'est lui aussi qui employa le verbe poyen dans un sens poétique précis. C'est Hérodote, le voyageur. Ce qui m'amène au quatrième et dernier terme de ma proposition, de mon projet existentiel. Si je dis poémologie, c'est afin de contourner, vous l'aurez compris, de transcender des termes plus habituels de poésie et de poétique, que j'ai très tôt écarté de mon vocabulaire. Trop connoté, et surtout aujourd'hui, le mot poésie, le mot poétique, non seulement trop connoté, mais carrément galvaudé. Tout le monde, je vais aller vers une notion de poésie, de poétique que j'estime beaucoup plus nécessaire que ces connotations qui traînent dans les médias, évidemment. Si je parlais tout au début de ma conférence de médiocratie, mais médiocre devient une norme, la médiacre aussi fait partie, évidemment. Donc tout le monde connaît. Pour terminer ma conférence, juste quelques exemples, encore des exemples précis, de poétique beaucoup plus profonde, beaucoup plus radicale, beaucoup plus ouverte. Tout le monde connaît ce qui constitue l'as, je vais commencer par ce qui n'est pas le cas. Tout le monde connaît ce qui constitue l'as poétique d'Apollinaire. Je me suis dit, je vais prendre un exemple français connu de tout le monde. L'As poétique d'Apollinaire, le poème dédié à sa muse, la jolie rousse, ou le pathos, c'est un poème très marqué par le pathos, pitié pour nous qui combattons toujours aux frontières de l'illimité. Pitié pour nous, qui combattons toujours aux frontières de l'illimité. Donc le pathos rejoint une déclaration d'intention qui se limite à une apologie de l'imaginaire. Beaucoup de gens croient que l'art et la poésie, c'est l'imaginaire. Absolument pas. Donc lui, Apollinaire, son intention, sa déclaration d'intention poétique, se limite à une apologie de l'imaginaire. Je cite, « Nous voulons vous donner de vastes et d'étranges domaines où le mystère en fleurs, le mystère en fleurs, s'offre à qui veut le cueillir. » Bon, donc, Apollinaire, c'est un cas négatif. Bon, il a fait quelques beaux poèmes. Que j'aime bien. Mais il fallait que j'aie cet exemple-là, que tout le monde connaît. À cela, je préfère de loin l'espace qu'ouvre Mandelstam dans son essai sur Dante. Et là, je cite Mandelstam, un des poètes que je ne dis jamais, mais je n'ai pas l'admiration facilement de son prof. Donc, j'estime beaucoup le travail. L'espace couvre Mandelstam dans son essai sur Dante. Alors voici Mandelstam sur Dante. Il est à l'encontre d'Apollinaire, avec cet esprit de surréalisme, entre guillemets, parce que le vrai surréalisme est beaucoup plus fort que ça, mais le surréalisme douceur d'Apollinaire. Voici Mandelstam sur Dante. Il y poussifa tout ce qu'on voudra, sauf par l'imagination. Il rend le sens mouvant et désintègre l'image. Il travaille à un espace ouvert au flux. Alors là, je ne fais pas de grimace, je ne fais pas de mine. Ça, c'est formidable. Dans ce contexte, j'inclus Walterton, une certaine année, j'inclus Walterton, déclarant qu'il serait prêt à abandonner tout ce que l'on associe ordinairement à la poésie, on va faire une petite liste, thème sentimental, versification soignée, etc. etc., etc. Si seulement il pouvait rendre la sensation que lui avait donné un chaos de rochers qu'il avait vu dans le Colorado, ou l'ondulation d'une vague. Un chaos de rochers, l'ondulation d'une vague. Voilà la chose qu'il a à l'esprit quand il essaye de faire de la poésie. Et Sandra, pour revenir à la langue française, 10 ans dans la prose du transsibérien, que s'il était encore mauvais poète, c'est qu'il ne savait pas encore comment aller jusqu'au bout. Comment aller jusqu'au bout? Savoir aller jusqu'au bout. C'est le thème, vous l'avez entendu, de tout ce que j'essaie de vous dire ce matin. Savoir aller jusqu'au bout, c'est une phrase que l'on trouve dans certains anciens textes sanskrits. Arvanapara, Krishna Karma Pi. C'est aussi le sens d'une phrase en sanskrit dont je ne connais plus la source, mais qui reste dans ma mémoire. À un moment donné, quand j'étais étudiant à Glasgow, j'ai acheté beaucoup de livres sur le sanskrit que je commandais à Benares. Le sens d'une phrase en sanskrit dont je ne connais plus la source, mais je l'ai dans la tête depuis tellement longtemps, qui reste dans ma mémoire justement comme un mantra. Loka Niroda Gamini Patipada. Loka Niroda Gamini Patipada. Que l'on pourrait traduire ainsi, aller pas à pas vers un lieu en dehors du lieu. Aller pas à pas vers un lieu en dehors du lieu. Alors c'est ce que j'ai essayé de faire toutes ces dernières années, entre l'Écosse et la France, entre le Nord et le Sud, entre l'Orient et l'Occident. Merci de m'avoir écouté ce matin à Paris. Merci.